Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaboriau. Adaptation Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 14e épisode, Monsieur Lecoq marque des points.
Résumé du 13e épisode.
C'est un terrible réquisitoire que prononce Sauvresie devant Berthe et Hector de Trémorel.
Il sait tout de leur trahison.
Il a recueilli le poison que lui verse Berthe dans sa potion et il tient un journal qui relate ce qu'il voit et ce qu'il entend.
Ce document et le flacon sont entre des mains sûres qui les remettront au procureur impérial si le couple ne s'est pas marié un an jour pour jour après sa mort.
Sauvresie a tout prévu pour qu'aucun ne puisse se dérober, ni par la fuite, ni même par la mort de l'un d'eux.
Plantin en a terminé avec l'évocation du drame du Valfeuillu et révèle que c'était lui le dépositaire des preuves qu'il a remis entre les mains de Berthe le jour même de son mariage avec Hector de Trémorel.
Et ce sont ces preuves que Trémorel a cherchées en vain et pour lesquelles il a tué sa femme.
Dans une rue de Corbeil.
Maintenant, il nous faut hâter le pas, mon cher Lecoq.
Bien, Plantin.
Le juge d'instruction Domini doit être hors de lui. Il nous attend depuis plus d'une heure.
Rassurez-vous. Le docteur Gendron, parti bien avant nous, doit le faire patienter. D'ailleurs, avec le résultat de nos investigations, il y aura de quoi apaiser le juge d'instruction.
Oui, certainement, oui.
Et d'abord, ce triste Roblot, qui est la cause principale de notre retard. Son suicide est déjà un aveu. Mais ce que nous avons découvert à son domicile, où son corps a été ramené, est une preuve supplémentaire éclatante. Plantin.
Oui.
Le poison a été vendu à prix d'or à Madame Sauvresie.
Roblot. Rusé gaillard, ce rebouteux. Assez prudent pour cacher sa fortune subite et assez patient pour paraître maître des années à s'enrichir.
Papier, valeur, or. Tout est à présent sous scellé. Monsieur le juge d'instruction pourra ainsi vérifier à son aise le bien fondé des déclarations que nous avons eu faire à ce sujet. Pour l'essentiel concernant directement Trémorel, il serait peut-être nécessaire de lui communiquer le dossier que vous nous avez lu et commenté avec tant de brio cette nuit. Chez vous.
Oui, bonjour, Brifo.
Bonjour, madame.
C'est le sacristain. Très mauvaise langue. Mais... vous êtes bien fin, Lecoq. Mais je suis assez pour garder le dernier mot. Vous avez déjà deviné beaucoup de choses et je devine de mon côté que vous donneriez gros pour connaître la source de mes renseignements.
Vous croyez que...
Oh, je crois surtout que vous avez trop de mémoire, cher ami, pour ne pas vous rappeler que hier soir, en commençant, je vous ai prévenu, vous et le docteur Gendron, que cette relation était pour vous seul, et que je n'avais en vous la communiquant qu'un seul but.
Lequel ?
Marchons, marchons. Facilitez vos recherches. J'ai en vous trop de confiance, Lecoq. Je vous estime trop pour ne pas être certain d'avance que vous ne parlerez aucunement de documents absolument confidentiels.
Enfin, bien sûr, vous pouvez compter sur moi.
Merci, Lecoq, je sais. Ce que vous direz vaudra tout ce que j'ai pu écrire. Surtout à présent que vous avez à l'appui de vos assertions le cadavre de Roblot et les sommes considérables trouvées en sa possession. Si.
Bonjour, monsieur Plantin.
Bonjour, madame.
Bonjour.
L'épicière. Si monsieur Domini hésitait encore à vous croire, vous Vous savez que le docteur Gendron se fait fort de retrouver le poison qui a tué Sombrosie.
Bien sûr.
Enfin, je crois que vous saurez taire ce que vous avez pénétré.
Vous pouvez compter sur ma discrétion, Planta.
Merci, mon cher. Abi
marche, Abi. Abi. Abi marche, Abi.
On va faire une très très
bonne. Abi marche, Abi, Abi. Abi. Abi.
Palais de justice, dans le cabinet du juge d'instruction, Dominie.
Et voilà. Maintenant, vous savez tout, monsieur le juge.
Je vous ai écouté avec attention, monsieur Lecoq. Si entier que l'on soit dans ses opinions, si peu disposé que l'on soit entré dans le sentiment d'autrui par tempérament, peut-être par déformation professionnelle, forcé de s'incliner devant l'évidence lorsqu'elle éclate de cette façon. Je suis à présent convaincu qu'un crime a été commis sur la personne de M. Clément Sombrosie, avec l'assistance chèrement payée de ce Roblot. Et dès demain, monsieur le docteur Gendron, vous recevrez une réquisition d'avoir à procéder à l'exhumation et à l'autopsie du cadavre du dit Clément Sombrosie.
Et je retrouverai le poison, vous pouvez en être sûr.
Fort bien. À présent, une question. De ce que Trémorel a empoisonné son ami pour épouser sa veuve, s'ensuit-il rigoureusement qu'il ait assassiné sa femme et ensuite pris la fuite?
Mais enfin, monsieur Dominie...
Non, je ne le crois pas.
Pardon, monsieur, mais... Enfin, il me semblait que le suicide de mademoiselle Courtois...
Le cas.
Suicide supposé, tout porte à le croire. Prouvez au moins quelque chose.
Mais c'est un fait à éclaircir, hein. La coïncidence que vous invoquez peut n'être qu'un pur effet du hasard.
Mais enfin, tout prouve que ce n'est pas une coïncidence. Mais enfin, même le fait que Trémorel se soit coupé la barbe et rasé, le fait qu'il...
Non, doucement, monsieur Lecoq, doucement. Je ne prétends pas dire que vous ayez absolument tort, il s'en faut. Seulement, je vous présente mes objections. Admettons, j'y consens, que monsieur de Trémorel ait tué sa femme. Il vit... Il est en fuite, soit. Cela prouve-t-il l'innocence de Guespin, et que celui-ci n'ait pris aucune part au meurtre? D'ailleurs, nous allons sans doute apprendre sur Guespin des détails d'un haut intérêt.
Ah bon? Attendriez-vous quelques nouveaux témoins?
Non. Non, mon cher juge de paix, mais j'attends un agent de notre police de Corbeil, auquel j'ai confié une commission importante.
Une commission au sujet de Guespin?
Précisément. Ce matin, de fort bonne heure, une ouvrière de la ville à laquelle Guespin faisait la cour m'a apporté une photographie de lui. Très ressemblante. Ce portrait, je l'ai remis à mon agent avec l'adresse des forges de Vulcain trouvée hier en possession du prévenu. Et j'ai chargé notre policier de savoir si Guespin n'aurait pas été vu dans ce magasin et s'il n'y aurait pas acheté quelque chose dans la soirée d'avant-hier.
Je suis désolé d'inspirer à monsieur le juge d'instruction si peu de confiance qu'il croit devoir m'adjoindre des aides.
Monsieur l'inspecteur, vous ne pouvez être partout à la fois.
Tout de même.
Je vous crois fort habile, mais je ne vous avais pas sous la main et j'étais pressé.
Enfin, une fausse démarche est souvent irréparable.
Rassurez-vous.
Voyons.
J'ai envoyé un homme intelligent.
Ah.
Vous allez en juger. Il attend dans le couloir. Greffier, s'il vous plaît. Veuillez faire entrer l'agent Goulard.
Bien, monsieur.
Alors, Goulard.
Bonne nouvelle, monsieur le juge. J'ai pas fait le voyage de Paris pour rien.
Nous sommes sur la piste de Guespin.
Voyons, procédons par ordre et méthodiquement. Conformément à mes ordres, vous vous êtes transporté au magasin des forges de Vulcain.
Immédiatement au sortir du wagon. Oui, monsieur le juge.
Parfait. Y avait-on vu le prévenu?
Oui, monsieur. Le mercredi 8 juillet, dans la soirée.
À quelle heure?
Sur les 10 heures, peu d'instants avant la fermeture du magasin. Ce qui fait qu'il a été bien plus remarqué et bien mieux observé.
Et qui a reconnu la photographie?
3 commis, monsieur. Ni plus ni moins. Ah, il faut vous dire que les manières de Guespin ont tout d'abord éveillé leur attention. Ils ont pensé avoir affaire à un homme pour le moins un peu gris. Puis, ce qui fixe à leur souvenir, c'est qu'il a beaucoup parlé. Il posait. Il a été jusqu'à leur promettre de faire acheter, si on lui garantissait une remise, une grande quantité d'outils de jardinage par une maison dont il avait toute la confiance. La maison du gentil jardinier.
Gentil jardinier. Mais ce nom me dit quelque chose. Peut-être que monsieur le greffier, d'ailleurs...
Effectivement, pourrait... monsieur le greffier. Oui. Le nom de gentil jardinier, figure...
Oui.
Pardon, figure... Ah, ici.
Ah, ben voilà.
Dans les dépositions de plusieurs témoins.
Ah, vous voyez.
C'est le nom de la maison où Guespin avait été placé en premier lieu.
Ah,
mais oui.
Et qu'il avait recommandé au comte de Trémont.
Ah, mais oui, c'est cela, oui. Merci. Reprenons. Alors, donc, il est acquis que Guespin était mercredi soir aux forges de Vulcain.
Tant mieux pour lui, Plantard.
Cela étant, oui. On a dû pouvoir vous dire de quels objets le prévenu était venu faire l'acquisition.
Il a acheté d'abord un marteau, un ciseau à froid et une lime.
Ah, je savais bien. Et ensuite?
Ensuite, monsieur, il a acheté un couteau, genre poignard.
Ah, genre poignard. Eh bien, mon cher, que pensez-vous à présent de votre client? Que dites-vous de ce garçon qui, le soir même du crime, renonce à une noce où il se serait amusé pour s'en aller acheter un marteau, un ciseau, un poignard, tous les instruments indispensables pour l'effraction et le meurtre?
Je pense, monsieur le juge, que les assassins du Valfeuille n'ont employé ni marteau, ni ciseau, ni lime. Ils n'avaient pas apporté d'outils du dehors, puisqu'ils se sont servis d'une hache.
Ils n'avaient pas de poignard non plus.
Monsieur le juge, c'est une autre question à laquelle il n'est pas difficile de répondre. Vous permettez que je m'adresse à votre agent?
Mais faites donc.
Dites-moi, agent, c'est tout ce que vous savez?
Oui, c'est tout. Et je trouve que c'est suffisant, puisque c'est l'avis de monsieur le juge d'instruction. Le seul qui ait des ordres à me donner. Et à l'approbation de qui je tiens.
Bon. Mais avez-vous seulement demandé quelle est exactement la forme du poignard acheté par Guespin? Est-il grand, petit, large, étroit? Est-il à lame fixe?
Ah, très important cela.
Mais ma foi, non. À quoi bon?
Simplement, mon brave, pour rapprocher cette arme des blessures de la victime. Pour voir si sa garde correspond à celle qui a laissé une empreinte nette et visible entre les épaules de la dite victime.
Long de 18 cm et large de 3.
Eh, c'est un oubli. Mais il est aisé de le réparer.
On comprend une inadvertance, mais du moins vous allez nous dire en quelle monnaie Guespin a soldé ses achats.
La nature de la monnaie importe assez peu, ce me semble.
Je prie monsieur le juge d'instruction de m'excuser si je ne suis pas de l'avis de l'agent Goulard.
Continuez, Loco, continuez.
Non, mais quelle est, en l'état de l'instruction, la charge la plus grave relevée contre Guespin?
Vous ne voyez pas? C'est l'argent.
Mais oui, Jean. C'est l'argent trouvé dans sa poche. Or, supposons un moment que le mercredi, à 10 heures du soir, il ait changé à Paris un billet de 1000 francs. Ce billet serait-il le produit du crime du Valfeuille? Mais non! Non, puisqu'à cette heure-là, le crime n'était pas commis. Alors d'où viendrait-il?
Ah, oui.
Non, Planta, c'est ce que je n'ai pas recherché pour le moment. Mais si mon hypothèse est exacte, la justice sera bien forcée de convenir que les quelques francs dont était nanti le prévenu peuvent et doivent être...
Le reste du billet.
Le reste du billet, c'est cela.
Ce n'est toujours qu'une hypothèse.
Il est vrai, mais qui peut se changer en certitude. Si vous le permettez, il me reste encore à demander à l'agent de Corbeil comment Guespin a emporté ces objets achetés. Les a-t-il simplement glissés dans ses poches? En a-t-il fait un paquet? Et comment était ce paquet?
Je sais pas. On m'avait pas dit... Je croyais que...
Ça, mon garçon. Qu'êtes-vous donc allé faire à Paris? Montrer la photographie de Gaspin? Et compter le crime d'Orcival à ces messieurs des forges de Vulcain?
Oh, ça, monsieur, ça, vous n'avez pas le droit.
Oui, ils ont dû être bien sensibles à votre attention. Mais Madame Petit, la servante de monsieur le juge de paix, on aurait bien fait autant.
Je ne permettrai pas.
Non, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Et sache qui te parle. Je suis monsieur Lecoq.
Quoi? Est-ce possible? Monsieur Lecoq? Vous? Un pareil homme que nous tenons tous de la police?
Eh oui, eh oui. Oui, c'est moi. Mais console-toi, mon garçon. Je ne t'en veux pas. Tu m'as quand même rendu service en m'apportant une preuve concluante de l'innocence de mon client.
Et quelle est cette preuve, s'il vous plaît?
Mais elle est simple et éclatante, monsieur le juge. Enfin, souvenez-vous que lors de notre enquête au château du Valfeuillu, nous avons trouvé les aiguilles de la pendule de la chambre à coucher arrêtées sur 3h20. Je mis, rappelez-vous, la sonnerie de cette pendule en mouvement.
Elle sonna 11 coups.
11 coups. Et de ce moment, il fut patent que le crime avait été commis avant 11h. Or, si à 10h du soir, Gaspin était dans le magasin des forges de Vulcain, il ne pouvait pas se rendre au Valfeuillu avant minuit. Enfin, c'est évident. Donc, ce n'est pas lui qui a fait le coup.
Mais je ne prétends pas que Gaspin soit le seul coupable. Il peut n'être que complice. Mais pour complice, il l'est.
Mais complice, mais non, monsieur le juge, mais victime. Oui. Oh, ce Trémorel est un grand misérable. Mais comprenez-vous maintenant pourquoi il avait avancé les aiguilles? Moi-même, d'abord, je ne voyais pas bien l'utilité de cette avance de 5 heures. Mais maintenant, le but est clair. Il fallait, pour que Gaspin fût sérieusement inquiété et compromis... Il fallait que le crime eût été commis bien après minuit. Il fallait...
Mais alors, comment expliquez-vous l'obstination de Gaspin à se taire, à refuser de donner l'emploi de sa nuit?
Mais monsieur, je comprends, je m'explique le mutisme obstiné de Gaspin. Je serais au comble de la surprise si, à 7 heures, il se décidait à parler.
Mais il a eu cependant la nuit pour réfléchir. 12 heures, n'est-ce pas assez pour échafauder un système de défense?
Mais notre prévenu s'inquiète peu d'un système. J'en mettrai ma main au feu.
S'il se tait, c'est qu'il n'a rien trouvé de plausible.
Non, non, monsieur, non. Mais croyez bien qu'il ne cherche pas. Pour moi, Gaspin est victime. C'est vous dire que je soupçonne Trémorel de lui avoir tendu un piège dans lequel il est tombé et où il se sent si bien pris que toute lutte lui paraît insensée. Il est convaincu, ce malheureux, que plus il se débattrait, plus il resserrerait les mailles du filet qui l'enveloppe.
C'est aussi mon avis, Lecoq.
Ah, je pense de même.
Enfin, le vrai coupable, le comte Hector de Trémorel, a été comme pris de folie au dernier moment et se trouble à stériliser toutes les précautions qu'il avait prises pour donner le change. Mais c'est, ne l'oublions pas, un homme intelligent, assez perfide pour mûrir les plus odieuses machinations, assez dégagé de scrupules pour les exécuter. Il sait qu'il faut à la justice son compte de prévenu, un par crime. Il n'ignore pas que la police, tant qu'elle n'a pas son coupable, reste sur pied l'œil et l'oreille au guet. Il nous a jeté Gaspin que, comme le chasseur serré de trop près, jette son gant à l'ours qui le poursuit. Peut-être comptait-il que l'erreur ne coûterait pas la tête à un innocent. Et certainement, il espérait gagner ainsi du temps. Pendant que l'ours s'attarde autour du gant, le chasseur prend du champ et se met en lieu sûr. Ainsi se proposait de faire Trémorel.
Cependant, vous avez vu la contenance de Gaspin.
Il était dans un triste état.
Mais qu'importe et que prouve la contenance? Nous avons vu, monsieur, vous, juge. Moi, humble policier, assez de prévenu pour savoir combien les apparences sont trompeuses. Combien peu il faut s'y fier.
Oui, Lecoq, oui.
Mais enfin, ce serait folie que de baser une appréciation sur l'attitude d'un accusé. Celui qui le premier a parlé du cri de l'innocence était un sot. Tout comme celui qui prétend montrer la pâle stupeur du coupable.
Oh, très juste, Lecoq.
Ni le crime, ni la vertu, malheureusement, n'ont de voix ni de contenance particulière.
Bien sûr.
La fille Simon, accusée d'avoir tué son père, s'est refusée obstinément à répondre pendant 22 jours.
C'est vrai, c'est vrai.
Le 23e, on a découvert le coupable. Quant à l'affaire Sylvain...
Très bien, Lecoq.
Mais écoutez,
bravo.
Non, très bien. Vous semblez plaider, monsieur l'agent de la sûreté. Et dans le cabinet du magistrat instructeur, il n'est pas besoin de plaidoirie.
Oh, monsieur Domini, voyons.
Les mêmes intentions généreuses et honorables nous animent tous deux. Chacun de nous, dans la sphère de ses fonctions, cherche la vérité. Vous croyez voir briller où je ne découvre que ténèbres. Vous pouvez vous tromper aussi bien que moi.
Excusez-moi si par la parole...
Mais non. Ce n'est pas un reproche que je vous ai adressé. Vos investigations peuvent vous conduire au-delà du fait. Et moi, je me penche sur le fait. Selon vous, monsieur Lecoq, que devrais-je faire? Eh bien? Ah,
que ne puis-je poser moi-même 3 questions à ce malheureux Gaspin?
Je ne sais pas jusqu'à quel point les règlements m'autorisent à vous accorder ce que vous me demandez.
S'il vous plaît, monsieur Dominique.
Non, je vous en prie. Cependant, comme en conscience, je suis persuadé que l'intérêt de la vérité domine toutes les ordonnances, je vais prendre sur moi de vous laisser interroger Gaspin. Ah. Huissier, savez-vous si l'on a reconduit Gaspin à la prison?
Pas encore, monsieur le juge.
Tant mieux. Dites qu'on me l'amène.
Bien, monsieur le juge.
Merci. Merci infiniment, monsieur le juge. Il parlera. J'ai pour lui 3 moyens de lui délier la langue, dont un au moins réussira. Mais avant qu'il n'arrive de grâce, monsieur le juge de paix, un renseignement.
Oui, Lecoq.
Savez-vous si, après la mort de Sauvosy, Trémorel a revu son ancienne maîtresse?
Jenny Fancy?
Oui, Miss Fancy.
Certainement, il l'a revue.
Plusieurs fois?
Assez souvent. À la suite de la scène de la belle image, la malheureuse s'est jetée dans la débauche. Avait-elle des remords de sa délation? Comprenait-elle qu'elle avait indirectement tué Sauvresy? Eut-elle un soupçon du crime? Je l'ignore. Mais toujours est-il qu'à partir de ce moment, elle s'est mise à boire avec fureur, s'enfonçant plus profondément de semaine en semaine.
Mais le comte, pouvait-il consentir à la revoir?
Non, il y était bien obligé. Elle le harcelait, il avait peur d'elle. Dès qu'elle n'avait plus d'argent, elle lui en envoyait demander par des commissionnaires et il en donnait. Une fois, il refusa. Le soir même, elle arriva elle-même, ivre. Oui, ivre. Et il eut toutes les peines du monde à la renvoyer.
Mais savait-elle qu'il avait
été... En somme, elle savait qu'il avait été l'amant de Madame Sauvresy. Elle le menaçait.
Ah, voilà.
C'était un chantage organisé.
Voilà, c'est ça.
Je tiens de lui l'histoire de tous les soucis qu'elle lui donnait. Il me disait qu'il ne se débarrasserait d'elle qu'en la faisant enfermer, mais que le moyen lui répugnait.
Plantin, la dernière entrevue date de loin.
Ah, je peux répondre à cette question, si vous le permettez.
Je vous en prie, docteur.
Lisez.
Bien. Alors voilà. Étant en consultation à Melun il n'y a pas 3 semaines, j'ai aperçu à la fenêtre d'un hôtel le comte et sa péronnelle. Même à ma vue, il s'est retiré vivement.
Alors plus de doute. Monsieur le juge d'instruction, si vous êtes toujours d'accord, vous pouvez faire entrer Gaspin.
Monsieur Lecoq va-t-il faire état des révélations de Planta? Un prochain épisode vous éclaircira.
Après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman,
le 14e épisode, du crime d'Orcival.
Avec Philippe Barthy, Jacques Charby, Raoul Guillet, Gérard Lartigot, Michel Paulin, Jean-Daniel Pernet, Fred Persson.
Bruitage, Dominique Aubert. Chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique, Edwige Philipponat. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Reiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 28 août 1984. Cet épisode, comme les précédents, est à réécouter ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, la nuit de noces de Guespin.